La Grande-Bretagne et les États-Unis n'ont Dieu que pour les compositeurs électroniques français, une French Touch.
Casus, Daft Punk, Air ou Stardust sont tous des Français et ils vendent plus d'un million d'exemplaires de leurs disques.
Et oui, on va parler French Touch aujourd'hui dans Zoom Zoom. C'est une rencontre au sommet cet après-midi dans notre émission, puisque pour évoquer la French Touch, nous avons d'un côté celui que le New York Times appelle le parrain de la scène électro-française, longtemps manager des Daft Punk. Bonjour Pedro Winter.
Bonjour à vous tous.
Et de l'autre, Manon Mariani, dite la Marianoche, autrice, compositrice, arrangeuse du Trésor Perdu, de l'électromolle française.
Ouais. L'électromolle, j'avais pas vu que vous aviez
fait ça. L'électromolle, un courant musical trop vite disparu qui nous a donné...
Non. Arrêtez, c'est le moment où c'est le plus juste.
Vous pouvez pas dire ça, Pedro Winter, non, j'ai trop honte. Non.
Je vous propose de l'écouter
en dossier là.
Il faut.
Écoutez.
Ça s'écoute.
Vous êtes méchant.
C'est pas si mal.
Ah, les arrangements sont incroyables. La tête de Pedro Winter mérite que vous me rejoigniez
c'est pas dégueu,
en vidéo.
C'est pas dégueu.
Ah, c'est pas dégueu, c'est le plus
Pedro.
Beau compliment qu'on ait jamais fait à nos nuits anglaises. Bonjour Manon.
Bonjour à tous.
Alors, à qui de vous, Pedro, la French Touch doit-elle le plus? Je ne suis pas spécialiste, mais je dirais quand même Pedro. Pedro Winter, vous êtes DJ producteur, on vous connaît aussi sous le nom de Buzzy P. Vous avez donc été le manager des Daft Punk avant de créer votre propre label Headbanger Records. Vous avez notamment produit les albums de Justice, Monsieur Oiseau et DJ Mehdi. On va
Monsieur
en parler.
Oiseau
Monsieur Oiseau. Moi, je l'appelle Monsieur Oiseau.
C'est bien, c'est très bien.
Vous avez dit Mister Oiseau tout à l'heure, c'est pour ça.
Enfin, ne me confondez pas avec Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef surgit d'un autre âge. Si vous deviez nous la définir en un mot, cette French Touch, ou même avec un son, c'est possible ou pas?
Alors, un son, ça serait quelque chose de filtré, puisque c'est la disco filtrée.
Je veux dire, c'est pas mal.
Pour ce tout sautement, mais sinon, non, mais c'est un courant musical. Un peu, il y a eu la nouvelle vague au cinéma, il y a eu la French Touch en musique électronique.
Zoom Zoom Back, direction 1998, avec Pedro Winter, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro vintage de Zoom Zoom Zen. Chaque vendredi, vous le savez, on se replonge dans une année marquante de l'histoire en compagnie de quelqu'un qui a fait en sorte qu'elle soit marquante, aujourd'hui donc 1998. First I was afraid, I was petrified, écrivait Cyril Lacarrière dans le tome 1 de ses mémoires de Ponto Combo au FBI, itinéraire d'un winner. 1998, c'est évidemment l'année où Didier Deschamps a soulevé la Coupe du Monde pour la première fois, l'euphorie passagère de la France Black Blamber. On va en parler, tout comme on va parler de l'événement cinéma de l'année, la sortie de ce film que j'avais vu pas moins de 6 fois en salle, Titanic.
Ah oui ?
Film phénomène qui avait poussé certains hommes romantiques à des excès qu'ils regrettent aujourd'hui, comme la fois où Cyril, le Casanova malaisant du 77, comme on le surnommait alors, avait voulu surprendre Geneviève Tapineau, sa dulcinée de l'époque, en demandant au patron du bowling de tamiser les lumières afin qu'il puisse, je le cite, « l'envoûter avec sa flûte ». Bienvenue dans Zoom Zoom Zen en mode rétro, spécial Splendeur et Misère de l'an 98.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Pauvre Cyril qui est même pas autour de la
ville,
il est en régie. J'avais oublié que le vendredi à la partie, il n'était plus avec nous,
qu'est-ce
mais on l'embrasse.
Qu'est-ce que vous feriez sans lui ?
Pedro Winter, vous allez donc nous raconter les débuts de la French Touch, juste le temps d'un petit tour de table pour vous présenter les forces en présence, à commencer par ce tandem de choc qui ne compte pas ses heures cette saison. Leur devise ? Work it harder, make it better, do it faster, make us stronger. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Bonjour à tous.
Manon, chaque vendredi, vous revenez sur une première fois.
Et en 1998, c'était la première fois que sortait un ordinateur révolutionnaire qui a totalement bouleversé les codes de la tech, l'iMac. Et oui, on se rappelle de sa grosse bulle bleue et surtout, il a été la bouée de sauvetage d'Apple qui n'allait vraiment pas bien à l'époque.
Face à vous, Pedro, il était, si j'ose dire, encore petit en 1998, mais pour la pour appréhender cette année mythique, il s'est plongé dans les archives de l'INA. Quentin, j'imagine que vous avez eu fort à faire.
Deux corners inoubliables, 12 juillet 98, Clinton dans l'embarras avec une stagiaire et Jospin qui légifère le temps de travail. Les archives de 98, c'est dans la prochaine demi-heure.
Également avec nous cet après-midi, c'est un peu la surprise du chef, car d'habitude, elle ne nous fait pas l'honneur de sa présence le vendredi.
Mais oui.
Bonjour Marie de Breuer.
Bonjour.
Vous étiez à peine née, vous, en 98.
Oui, j'étais un tout petit bout de chou, je me rappelle de rien. Mais du coup, Cyril m'a dit, tu parles de Zidane ou de Jacquet? Je connais pas Jacquet, ça sera Zidane.
Aimé Jacquet quand même.
Bien sûr.
Une expertise footballistique qui fera passer nos confrères de l'afterfoot d'RMC pour des marioles. On reviendra aussi sur les grands moments ciné de cette année 98. En fin d'émission, Charles Nouveau viendra certainement nous parler d'une boîte où j'ai passé un peu trop de temps au tournant des années 2000. Mais d'abord, je me tourne évidemment vers notre invité d'honneur pour fêter 1998. Pedro Winter, 1998, c'est l'année de la French Touch avec la sortie du légendaire Music Sounds Better With You de l'éphémère groupe Stardust. Ça représente quoi ce titre en particulier, Pedro ?
Ouais, c'est vrai que c'est un un marqueur assez important, d'une part pour la musique électronique française, puisque c'est... alors, c'est pas un numéro 1, je vais révéler un... C'était un numéro 2 en Angleterre, grande tragédie dans la galaxie électro-française, mais un numéro 2 en Angleterre, c'est quand même pas rien, mais c'est un marqueur fort, parce que ça a été vraiment un raz-de-marée, ce titre, dans le monde entier. Et effectivement, l'année d'avant, Daft Punk a sorti son premier album Homework, mais Stardust a d'une certaine façon dépassé le succès de Daft Punk.
Il a moins duré.
Et ça a moins duré, malheureusement. Ça, c'est, ouais. Le côté obscur de cette histoire. Mais voilà, mais ça a mis en avant un son.
Mais c'est l'infidélité de Thomas Bangalter pour Guiman, cette période-là.
Il faut voir ça comme une escapade. Plus
c'est un Daft Punk en délaisse un autre.
Ouais, il va s'amuser avec deux autres copains.
Comment vous l'avez géré en tant que manager?
Moi, je l'ai. On l'a très bien géré parce que c'était un clan assez de potes. Les deux artistes avec qui il a collaboré, c'était un peu des cousins de la famille Daft Punk.
On peut rappeler.
Bien sûr, Alan Braxe et Benjamin Diamond qui chantent Music Sounds Better With You.
Ça n'a pas été une première rupture entre les deux?
Non, absolument pas. Non.
Est-ce qu'on parlait déjà d'ailleurs de French Touch en 1998?
Bien sûr. Ouais, la French Touch, au départ, c'est vraiment un courant assez journalistique. Disons, c'est les Anglais qui, pour un peu mettre tout dans le même sac, en tout cas, toute l'électronique qui arrivait de Made in France était tamponnée French Touch. Et ensuite, ça a été un son, une disco filtrée, vraiment une musique pour faire la fête, pour danser, sans message réel.
Vous aviez conscience d'être aux prémices d'un mouvement qui allait tout changer?
Comme on se marrait un peu, Marie était pas née et tout ça. J'avais 23 ans, donc on est à 23 ans, on réfléchit pas non plus, on fait les choses de façon spontanée. On se rendait compte effectivement qu'il y avait il y avait des attentes et de la demande, mais de là à analyser. Aujourd'hui, on a le recul, donc c'est assez génial de pouvoir se poser, de se marrer sur quoi et de prendre conscience de tout ce qui a été fait et de voir ce que l'héritage et l'héritage est réel aujourd'hui, puisque la French Touch a créé des sous-genres et aussi surtout créé des jeunes artistes ont voulu se lancer.
Vous dites que le terme French Touch, il est né un peu chez les journalistes d'abord. Vous nous faites la gentillesse d'être là cet après-midi, mais ce terme French Touch, il vous parle en tant que pro de la musique, ou c'est un truc, vous dites, c'est un peu un truc pour mettre un label, mais il y a tellement de complexité dans ce mouvement.
Non, il me parle complètement et moi je l'embrasse. C'est comme je vis avec depuis toutes ces années. C'est pas un fardeau, mais c'est une responsabilité d'une certaine façon, puisque je suis un peu la vie de tout ce courant musical. Mais donc aujourd'hui, c'est une fierté, encore une fois. Alors, il n'y a pas de truc revival ou vintage, puisque, encore une fois, on l'a vu pendant les JO à Paris, la French Touch, est un courant musical qui a été ovationné. Quoi.
On en a parlé, alors on l'écoute, c'est la règle dans Zoom, sauf quand il est question d'Intérieur Nuit, l'éphémère groupe de Quentin Luy. On continue notre voyage en 98 avec Stardust, Music Sounds Better With You sur France Inter. We'll be right back.
Love might bring us back together. I feel so good. I feel right. The music sounds better with you. Love might bring us back together.
Zoom Zoom Back, direction 1998 cet après-midi. Oui, ça vous fait rire, Marie.
Bah oui, jamais la vendredi, j'apprends.
C'est le côté marketing de l'émission. Bah je martèle ce Zoom Zoom Back du vendredi. C'est... Très travaillé. Avec un acteur majeur du courant musical qui décollait en 98, la French Touch. Pedro Winter, vous avez été le manager des Daft Punk, vous avez fondé votre label Headbanger Records, vous êtes un des papes de la French Touch. Pour les plus jeunes et aussi peut-être les plus vieux qui nous écoutent et qui entendent souvent cette expression French Touch, c'est quoi le point commun entre Air, les Daft Punk, Phoenix et Justice par exemple?
Oh bah c'est juste qu'ils sont français, hein. Là pour le coup.
Ah là, oui, là, c'est quand même trop
là, c'est, voilà, parce que c'est marrant, Air, en tout cas 98, puisqu'on parle de l'année 98, c'est la sortie de Moon Safari, leur premier album, et on les a mis dans la French Touch, alors que c'était pas du tout de la musique électronique pour danser, au contraire, c'était de la musique pour faire l'amour ou s'endormir. Après la danse, un de mes albums préférés, mais on les mettait, et Phoenix, pareil, se sont retrouvés catapultés dans ce sac de qui est la French Touch, alors qu'ils faisaient absolument pas la même musique que Daft Punk.
En 97, il y a un magazine anglais qui dit « Qu'est-ce qui arrive à ces foutus Français ? 100 ans de merde avec Michel Thor, Johnny Hallyday et Indochine.
Oh, » Ils se sont bien renseignés.
Et depuis un an, tout d'un coup, un son fantastique avec du génie dans les mélodies et un chic original qui plonge soudainement le reste du monde dans l'ombre. C'était vraiment un séisme, cette ampleur.
Ouais, tout est résumé ici. C'est que la France n'existait pas, en tout cas, sur la carte internationale musicale. Et effectivement, c'est que des mecs de 20-25 ans qui arrivent. Alors effectivement, il y a la démocratisation du home studio, les sampleurs, les boîtes à rythme qui deviennent accessibles à tous. Et nous, la chance qu'on a eue sûrement, c'est que tous ces mecs de 20 ans ont eu cette envie commune de créer un mouvement. Et il y avait quelque chose d'émulation entre tous ces artistes.
Et comment c'est arrivé aux États-Unis ? C'est passé par Daft Punk, par Cassius ? C'est passé par qui ?
C'est ça, et après, il faut rendre à César, on a été tout de suite, on s'est organisé, on a notamment, en tout cas je parle pour Daft Punk, signé avec Virgin France, qui est une grande maison de disques, donc c'était d'ailleurs la trahison dans le monde de l'électro, puisque l'underground, si tu signes avec une major compagnie, tu vends ton âme au diable, et justement Daft Punk, ils ont prouvé le contraire, ils ont dit, on va rentrer dans la machine, rentrer dans la matrice, et on va faire exploser le système, et c'est exactement ce qu'ils ont fait, et grâce à cette signature dans une grosse maison de disques, on a pu avoir des relais aux États-Unis, en Angleterre, en Asie, et c'est comme ça que le groupe a été connu.
Pedro, 100 ans de merde, c'est peut-être un petit peu excessif, mais néanmoins, qu'est-ce qui se passe et comment rétrospectivement vous expliquez que ça soit en France et après on peut même dire entre Paris et Versailles hein, que tant de génies musicaux naissent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un pur hasard?
Alors, je pense que moi, j'adore la théorie du hasard et d'être au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire que l'alignement.
Il n'était pas au bon endroit, il était à Versailles, pas trop d'électro, avant vous.
Il y a un bout de la French Touch, effectivement. Mais la French Touch n'est pas que parisienne. Il y a eu des grands acteurs à Grenoble, à Lyon, la scène marseillaise aussi était présente dès le début, okay. Jack de Marseille. Mais, pour leur faire un clin d'œil aussi. Mais, non, honnêtement, c'est vrai que je ne saurais pas l'expliquer. Encore une fois, je pense que c'est.
J'ai l'impression d'une génération spontanée comme ça,
mais
avec
c'est ça.
Rien avant.
Mais il faut laisser un peu cette part de rêve aux gens. Quelquefois, les coups de magie s'obtiennent sans par hasard. Quoi.
Mais le succès Quentin. International, est-ce que c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était des Français?
Alors c'est marrant que tu poses cette question. C'est très marrant parce qu'il y a des artistes anglais, pour être connus, se faisaient passer pour des Français.
à l'époque.
Notamment, à l'époque. Il y a un disque qui s'appelle Les Rythmes Digital et en fait, c'est un Anglais qui a fait ça.
Il
s'appelait
Jacques Rythmes Digitaux.
Exactement.
il s'est trahi
et il s'appelait Jacques Lucon. Et bon, un album magnifique et il se faisait passer pour Français. Quoi.
Oui, Baguette.
Voilà. C'est ça. C'est plein cliché. quoi.
Quentin, pour vous, 98 représente un tournant radical musicalement, puisque vous tournez le dos à vos premières amours, Carlos. Que je rappelle, vous avez applaudi en concert.
C'est mon premier concert. Voilà.
Pour embrasser.
Moi, c'était Chantal Goya. Chacun ses dossiers.
Pedro Chantal, vous, c'était Thierry Pimpon. Et ensuite, vous avez basculé vers quelque chose de plus fougueux, de plus rock'n'roll. C'était Corbier,
sans
je crois.
Sans ma barbe.
Que vous reprenez d'ailleurs. Après quelques verres en soirée.
Voilà.
Quentin, vous aviez donc, ce qui excuse un peu tout ça, 7 ans en 98. Année que vous allez pourtant nous raconter à présent dans votre complètement aux archives.
Le 12 juillet 1998, 21h27, tout le monde retient son souffle.
Et ce sera un corner pour l'équipe de France tirée par Emmanuel Petit. Attention à ce corner pour l'équipe tricolore. Il y a les joueurs de tête et dans la surface de réparation, le ballon pour Zidane. Et but ! But de l'équipe de France sur le corner d'Emmanuel Petit. La tête de Zizou.
La tête de Zinedine Zidane fait trembler les filets brésiliens au Stade de France pour la finale de la Coupe du Monde. Le score, tout le monde le connaît, 3-0, doublé pour Zidane et but d'Emmanuel Petit. La nuit à Paris est inoubliable.
Du jamais vu depuis bientôt un demi-siècle. Paris qui exulte, Paris qui tient ses libérateurs. 1,5 million de personnes sur les Champs-Élysées. Une nuit blanche pour voir la vie en bleu.
C'est de la pure folie là. C'est de la pure folie. Je les connais pas, tout le monde sait, tout le monde il est beau.
Zidane, il est du même patelin que nous. Il est de Béjaïa, Algérie. On est très content, on est venu ici en France pour supporter l'équipe de France et supporter Zidane.
Les images sont incroyables. Sur l'une des faces de l'Arc de Triomphe, le visage de Zidane est au-dessus des néons bleus écrivent champion du monde. Et 1, et 2, et 3, on aurait pu compter jusqu'à 35 car 1998, c'est aussi l'année marquée par...
Après des mois de navette, Assemblée nationale, Sénat, puis à nouveau l'Assemblée, puis à nouveau le Sénat, puis à nouveau l'Assemblée, ben aujourd'hui, ça y est, le projet de loi instaurant les 35 heures a été adopté par les députés. La gauche a voté pour, la droite a voté contre.
C'était l'un des gros dossiers du gouvernement Jospin, une loi fixant la durée légale du temps de travail à 35 heures par semaine au lieu de 39 heures. En 1998, pour se détendre, on écoutait ça.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino.
Visiblement, Pedro a beaucoup écouté ça.
Sorti le 17 avril 1998, l'album Clandestino de Manu Chao, ancien leader de la Mano Negra, se répand dans le monde entier. Clandestino devient un album de référence dans les bars, dans les autoradios. J'ai retrouvé une interview de l'artiste très rare dans les médias.
Oui, bon, j'ai la chance de voyager beaucoup. Je suis bien conscient que j'ai la chance d'être né du bon côté de la barrière. J'ai un passeport, je peux voyager partout dans le monde. Il y a plein de gens, plein d'amis à moi notamment, qui n'ont pas cette même chance. Et c'est un peu de ça que parle le disque, quoi, de ces frontières arbitraires qui est un peu partout dans le monde. Il y a Gibraltar, le détroit de Gibraltar, l'Afrique, l'Europe. Il y a Tijuana, les États-Unis, l'Amérique du Sud. Et l'album parle beaucoup de ça, ouais.
26 ans plus tard, Manu Chao sort aujourd'hui un nouvel album, Viva Tout, un album France Inter.
Ouais, évidemment.
Direction l'Amérique maintenant, car en 98, coup de tonnerre à la Maison Blanche.
Madame, Monsieur, bonsoir. Réélu triomphalement il y a un an, le président américain Bill Clinton va-t-il être obligé de démissionner ou sera-t-il destitué pour incitation à faux témoignage, pour mensonge donc, comme le fut en son temps Richard Nixon.
Une liaison entre le président des États-Unis et une stagiaire de la Maison Blanche, c'est l'affaire de l'année. Clinton aurait demandé à Monica Lewinsky de taire leur liaison alors qu'elle était interrogée elle-même dans le cadre d'une autre affaire, celle de Paula Jones, qui accusait également le président d'avoir voulu la forcer à une relation sexuelle. Bill Clinton jure et ment sous serment et ment en direct à la télévision.
Ce fut surtout pour Clinton l'occasion de nier une quatrième fois sous le regard bienveillant de son épouse Hillary.
Je veux dire une chose aux Américains. Je veux que vous m'écoutiez. Je vais le redire. Je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec cette femme, Mademoiselle Lewinsky. Ces allégations sont fausses. Et maintenant, je dois retourner travailler pour le peuple américain. Merci.
Rien n'a changé.
On retrouvera son ADN sur une robe de Monica Lewinsky. Mais Clinton ne sera finalement pas destitué. En 98, on entend ça.
France Inter.
Le monde est sans voix. La voix, The Voice, c'était l'un des surnoms de Frank Sinatra. Il est mort d'une crise cardiaque hier soir à Los Angeles.
And now, the end is near.
Une des plus belles voix de l'histoire de la musique s'éteint pour de bon. Frank Sinatra meurt à 82 ans. The Voice, qui a oublié de suivre le conseil de Thierry Roland.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais
On peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là.
La surimpression est étonnante. On a l'impression que le pied, c'est la mort de Sinatra. C'est très bizarre. Très bizarre cette réaction de Thierry Roland. Merci beaucoup, Quentin. Pour ce complètement aux archives de qualité. Pedro Winter, c'est toujours une émotion particulière d'entendre le premier but
d'entendre Frank Sinatra.
D'entendre Frank Sinatra, oui, j'imagine. Aussi. Est-ce que ça vous met les poils un peu comme Manu Chao, d'ailleurs, j'ai l'impression.
Complètement. Non, mais Manu Chao, j'adore. Je suis trop content qu'il revienne.
Ah bah là, il revient fort. Et il revient avec France Inter, vous l'aurez noté.
Oh, j'ai noté.
Ça, c'est très important de le noter. 1998, les Bleus soulevaient la Coupe du Monde. Cyril soulevait Geneviève Tapineau. Oh et Zidane entrait dans l'histoire. Mathieu. Oui, pardon. Justement, pour brosser le portrait de cette légende du ballon rond, on accueille à présent un humoriste de grand talent, fin connaisseur du football, qu'on appelle d'ailleurs le Zizou du MIC. Ah bah non, c'est Marie. C'était la Marie, un vendredi.
Eh ben, on m'a mise sur le banc du remplaçant, Mathieu. Et la joueuse française, Marie Debreu, est rentrée à la 72e minute. Non, c'est bof, je suis désolée. Oh là là, il y a Grégoire Margoton qui chiale en régie, avec Lisa Razou qui lui caresse la nuque. Bon bah, moi, et le foot, ça fait deux. Ça promet une belle chronique. Je voulais pas parler foot, mais Cyril m'a dit, 98, si tu choisis pas Zidane ou Jaquet, on va s'engueuler. Moi, je m'engueule pas. Voilà, moi, je suis une people please. Et j'ai besoin de garder mon boulot. Bon, alors, donc, Jaquet connaît pas. Et non, ce n'est pas qu'une marque de pain de mie. Celui aux 5 céréales, là, délicieux, avec une petite tranche de jambon et du gouda. Ou du comté, pour les plus gourmands. Bref. Bon, je tiens à vous rappeler quand même que moi, en 98, je chiais encore dans mon froc. Donc, vraiment, pas super sympa de me faire parler de la Coupe du Monde. Les gens qui ont vécu 98, sérieux, ils ont un truc de... Mais tu peux pas comprendre, en fait. Tu peux pas comprendre. Il y avait une ambiance, une atmosphère, une autre. Tu sais pas, c'était fou, mais fou. On dirait un gars qui revient d'une retraite chamanique en Inde. Non mais ne pas parler pendant 29 jours en ne bouffant que des graines de chia et en regardant droit dans les yeux les petits indiens amputés, tu peux pas comprendre en fait. Ça change ta vie en fait. Je digère hyper mal les graines de chia. Bah il y a un truc qui a pas changé, c'est que je t'écoute pas quand tu parles, Pascal. Ah, bon, Zinedine Zidane, difficile à vanner quand même. Il a juste l'air d'être le meilleur humain. Des vannes quoi, sur le coup de boule. Bon, il semblerait que 100% des blagues aient déjà été faites. J'aurais détesté être stand-upeuse en 2006, genre « Salut, salut, salut les amis, vous avez vu le coup de boule de Zizou par applaudissement ? Vous l'avez vu ? Ah ouais, c'est chaud, hein. Je me fais chier ! Ça fait 17 fois qu'on me demande d'applaudir, j'en peux plus ! J'ai des cloques aux mains ! Puis c'est quoi être rémunéré au chapeau ? T'es payé en couvre-chef, trouve un taf, Jordan ! Je me moque, hein, mais venez nous voir mercredi au Jamel Comedy Club, c'est à 20h. Et oui, je fais ma promo en milieu de chronique.
En milieu de chronique !
Je ne connais rien de Zinedine Zidane, ok ? Si, je vais vous dire, j'ai quand même une ref. Moi, sur Zidane, c'est la gauche, toujours la gauche, et une bonne gorgée de Volvic. Déjà, voilà, c'est une imitation brillante.
C'est plus sur Pagnol que...
Ah là là. Non, mais cette pub, j'avais envie de boire tellement de gorgées de Volvic. C'est sûr qu'il y a des gars, ils s'achetaient de la Volvic en espérant enfin être repérés par les juniors de l'OM, mais les ligaments croisés, tu connais, par applaudissement. Et maintenant, ils font des blagues avec moi au Jamel Comedy Club. La gauche, toujours la gauche. Ça, c'est vraiment un truc de gosse des années 90-2000. Hein. Ah ouais. De connaître toutes les pubs par cœur. Vive El Dob, Fixation Beto. Ah ouais. On est des tubes, on n'est pas des pots. Mais on a tout ce qu'il vous faut, des fruits. Ah, moment de solitude pour la joueuse française.
Je dois être trop vieux.
Sérieusement, on a tellement regardé la télé, on pensait que l'abeille des Miel Pop, c'était notre daronne. Miel Pop, c'est bzz, 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 bzz. Mais Marie, qu'est-ce que tu fous à butiner les tulipes du jardin? Mais c'est l'abeille de la télé qui m'a dit de le faire. Bzz, 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 Zinedine Zidane.
Oh là là.
Désolée,
pardon. C'est un enchaînement qui a été validé. Ah,
c'est terrible. Il a un bichon maltais. Voilà, c'est un petit chien très mignon. Bon, bah voilà, il fait des photos avec le petit chien au restaurant, au café, à la plage. Zizou, il serait pas footballeur mondialement connu. Je me dirais qu'il est peut-être un petit peu chiant. Il fait les mêmes photos que le gars sur Tinder qui a pour biographie. Emoji ballon de foot, emoji surf, emoji chien, emoji pâte à la sauce tomate. Fais le premier pas, ma belle, je ne mords pas. Hashtag coup de boule. Mais non. Ça marche pas, comme Zidane est parfait, avec sa femme parfaite et ses enfants parfaits et sa carrière parfaite. C'est tout le contraire de cette chronique. Mais désolé, je me suis fait les ligaments croisés.
Bah évidemment. Merci Marie de nous avoir dépanné au pied levé pour le coup.
Bah avec plaisir. Je peux
permettre de prendre cette image. Dans un instant, on continue notre balade en 1998 côté salles obscures. Manon nous racontera une première fois inoubliable, autre que celle de Cyril avec Geneviève. Non. Le tout sous le regard du patron de la French Touch, notre invité Pedro Winter, qui, je le sens, adore, et nous l'a dit d'ailleurs, il adore Manu Chao. Les mélomanes l'auront d'ailleurs noté, il y a pas mal de clins d'œil à Clandestino dans le premier album des Daft Punk. Bref, vous serez content d'apprendre que Manu Chao est de retour. Et qui plus est, avec France Inter, le voici avec l'Haïti, tout est vaste sur Inter.
Vivir sin ti es vivir muriendo. Vivir así no lo recomiendo. Y así que así yo sigo insistiendo. Vivir sin ti es morir queriendo.
Cuando tú te vas, clavarme espinas, si ese dolor se te contamina, será mi voz que ya desafina. Cantar pa' ti es mi droga ruina. Vivir sin ti es clavarme espinas.
La mula m'apaise à peine. Je reviendrai jamais. Partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Souviens-toi de nous. Malgré le love, j'ai mis de la distance, ta distance. Une chanson, les larmes au cou. Malgré le love, j'ai mis de la distance, ta distance.
Quand tu te vas, quand tu te vas.
Vivir sin ti es salir corriendo. A por tu sombra, la que yo me invento. Será que a ti te importa un pimiento. Vivir sin ti casamiento.
Non, ce n'est pas qu'une question d'amour, tu le sais très bien. Je ferai tout pour te mettre à l'abri, tout ira bien. Je veux plus retourner dans le piège, non plus jamais. Donne-moi juste une lueur d'espoir. Moi j'ai fait de mon mieux pour te faciliter la vie. À toi de faire ton choix. La moula m'apaise à peine.
Je reviendrai jamais.
Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais.
France Inter. Zoom zoom zoom. Mathieu Noël.
Vous vous demandez ce qu'est la French Touch? C'est simple, la French Touch, c'est lui.
Oh là là!
C'est dark, même. Pedro Winter est avec nous cet après-midi pour zoomer sur 1998, l'année de l'envol de la French Touch. Pedro, pourquoi la French Touch a changé la face du monde? Déjà parce que, est-ce que le côté français, ça a été un argument marketing, un côté un petit peu exotique pour les anglo-saxons, ou ça aurait pu nous nuire au contraire?
Alors, c'est pas quelque chose avec lequel nous avons joué, en tout cas le côté français, mais je pense que ce qui a plu, c'est plutôt l'idée de ces artistes français qui amenaient les choses un peu différemment, qui avaient un regard et une ambition peut-être un peu plus artistique, de faire des beaux clips, de faire des belles photos. Il y avait quelque chose qui était très lié à l'image. On parle de musique, mais il faut se rappeler aussi que les clips, Michel Gondry, notamment, réalisateur illustre, qui a marqué quand même, et qui a fait Stardust aussi.
Il a fait le clip de Stardust.
Donc il y avait quelque chose comme ça qui arrivait en bloc. C'était pas que de la musique, c'était de l'image. Et effectivement, il y a, je pense, le côté aussi un peu français qui respecte pas les règles ou ce que nos amis américains ou anglais attendent de nous. Et finalement, cette nonchalance, ce charme français, justement, cet héritage de Serge Gainsbourg, il était présent dans la French Touch.
Et c'est ça qui vous a donné l'idée de créer Headbanger, je crois que c'était en 2003, c'est ça?
C'est
de mixer, justement, tous ces artistes.
Ouais, après, moi, je travaille avec Daft Punk depuis quelques années, donc j'accompagnais des artistes, chose que j'adore, mais j'avais certainement au fond de moi envie d'en accompagner d'autres, et le moyen, en tout cas la route pour ça, c'était de monter un label, et à ce moment-là, j'ai rencontré plein de jeunes artistes, Breakboat, Justice, Sébastien et compagnie, et c'est une belle aventure qui dure depuis 20 ans maintenant.
D'ailleurs, vous avez plein d'anecdotes, hein, notamment avec les Daft Punk qui s'en vont en fait de la limousine un jour et qui vous laissent tout seul avec avec un...
Mais ça c'est à la fois très français et très Daft Punk, c'est-à-dire que eux refusaient le star system, en tout cas c'est pour ça l'idée des masques et de se cacher.
Attendez, je vous arrête là-dessus Pedro, moi je suis vraiment un néophyte, mais pour moi le truc des masques c'est genre comment on peut pousser la célébrité plus loin en étant mystérieux. Donc, en montrant pas nos têtes, on est encore plus intrigant.
Il y avait certainement un mélange des deux, effectivement. Mais l'idée première, c'était vraiment d'être tranquille. D'ailleurs, Thomas et Guimane, encore aujourd'hui, prennent le métro tranquillement. Et donc, cette histoire de limousine à New York, c'est une vraie histoire.
La chute de l'histoire? Parce que, évidemment, Quentin la connaît, mais nous, non.
La chute, c'est juste on se retrouvait chez Virgin, donc la maison disque américaine, et on venait de signer un contrat ou je ne sais quoi, et on descendait, puis la patronne de la maison de disques nous attendait dans une grande limousine, et eux détestent ça. Voilà, et donc ils m'ont laissé tout seul. Donc j'étais dans une limousine avec toute l'équipe de Virgin, et eux ont pris le métro. Ils sont arrivés évidemment bien longtemps avant nous. Et moi, je me la suis kiffée en limousine dans New York. Contrairement à eux, moi j'adore tout ça.
Bien sûr. Manon, des premières fois, il y en a eu pas mal en 98. Première Coupe du Monde pour Zidane, première MST pour Cyril, fin du running. Vous revenez pour nous sur une autre première fois.
Cupertino, le 6 mai 1998, Steve Jobs présente cette nouvelle création pour Apple devant une foule de passionnés en délire.
This is iMac.
Le tout premier iMac est né, tous les professionnels présents sont excités de voir à quoi il ressemble, et pour cause, son design épuré fait toute sa différence. Il est fait en plastique translucide avec une grosse bulle bleue derrière devenue iconique. On le croirait tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais non, c'est bien la nouvelle création d'Apple. Et en 1998, aucun autre ordinateur ne ressemble à ça. Les PC et même les Macintosh qui sortent des usines d'Apple sont tous gris, beige, gros, esthétiquement, il n'y a rien de très beau chez les ordinateurs, de très fun. En plus, ils sont tous accompagnés d'un gros modem à côté, et si on veut écouter de la musique, il faut acheter des enceintes. Bref, c'est toute une installation. Sauf que l'iMac combine justement tout ça. Le modem est à l'intérieur, les enceintes aussi, et pour se connecter à Internet, ça n'a jamais été aussi facile, comme le dit la pub des iMac de 98.
Étape numéro 1, se brancher. Étape numéro 2, se connecter. Étape numéro 3, il n'y a pas d'étape numéro 3.
Une révolution pour l'époque. Pour la première fois, tout est pensé pour être dans un seul et même objet, et qui plus est, un bel objet. Un objet qu'on est fier de mettre chez nous comme la pièce d'un designer célèbre. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est vendu dans les publicités d'Apple avec le slogan « Chic, not geek ». Il est commercialisé 3 mois après sa présentation à Cupertino, le 15 août 1998. Et malgré le prix très élevé de 1 200 $ quand même, c'est un succès fulgurant pour Apple. 278 000 unités sont vendues dans les 6 premières semaine et 800 000 à la fin de l'année. Un an plus tard, on dit qu'il se vend un iMac toutes les 15 secondes. C'est un vrai phénomène.
Apple lance aux États-Unis son tout nouvel iMac. Des ordinateurs en veux-tu, en voilà. 150 000 vendus en 8 jours, et paraît-il des ruptures de stock monstres. Coup de pub, coup de bluff ou réalité, qui sait. Mais voilà en tout cas de quoi redonner espoir aux constructeurs longtemps menacés.
Un constructeur longtemps menacé, et oui, car l'arrivée de l'iMac marque aussi le renouveau d'Apple qui était à deux doigts de la faillite. Un renouveau que l'entreprise doit à une personne, son créateur, Steve Jobs, qui a fait un comeback marquant cette année-là. Car vous l'avez sûrement oublié, mais Jobs n'était plus chez Apple depuis un certain temps. Il s'est fait licencier de sa propre entreprise en 1985, car il ne s'entendait pas avec le directeur général. Et son départ marque le début de la dégringolade pour Apple, qui n'arrive pas à rivaliser avec les marques de PC, HP, Dell, Asus, IBM, toutes sortent des ordinateurs moins chers que les Mac, avec des systèmes beaucoup plus avancés. Et Steve Jobs, de son côté, il a profité de ses années loin d'Apple pour justement travailler sur un tout nouveau système d'exploitation. Système qui va être racheté par Apple en 97 et qui va lui permettre de redevenir le patron de l'entreprise. Système qui va devenir le fameux Mac OS X, qui a aussi fait le succès de l'entreprise. Steve Jobs sauve donc Apple de ses débuts avec son ordinateur à la bulle bleue. Il passe ensuite 14 ans à sa tête. 14 ans où il va créer des objets emblématiques. L'iPod en 2001, l'iPhone en 2007, le MacBook en 2008, l'iPad en 2010. L'entreprise investit des milliards de dollars chaque année rien que dans la recherche et le développement de nouveaux produits. Rien que l'année dernière, Apple a investi 30 milliards de dollars. Alors aujourd'hui, elle domine toutes les entreprises de la tech. Tout le monde essaie de la copier sans jamais l'égaler. Les iMac bleus ont été remplacés par des ordinateurs au design un peu moins fun, faut le dire, et toujours beaucoup trop cher. Il n'empêche qu'ils ont marqué l'histoire de la tech.
Merci beaucoup Manon pour cette toute première fois très complète et réussie, malgré l'utilisation, l'emploi malheureusement du mot banni, le mot iconique.
Ah non, mais Cyril me l'a autorisé.
Ah, il l'a autorisé.
Oui.
Ah, peut-être pour
Steve
Jobs.
C'est relu et approuvé.
Peut-être pour Steve Jobs, là ça va.
C'est le cas, l'objet était iconique.
Bien sûr,
c'était
merci.
Beau, c'était beau.
Oh là là, ouais.
La French Touch, Pedro Winters, qu'elle est indissociable d'un certain progrès
de
technique.
De Apple.
Alors, pas de marque, mais...
Pardon.
Mais est-ce que le progrès, les changements techniques disponibles pour les DJ à l'époque ont tout changé?
Non, c'est pour ça que j'ai apprécié, j'avais complètement oublié d'où l'intérêt d'une émission comme la vôtre.
Exactement. Oui.
Non, non, mais c'est trop marrant parce qu'effectivement, je me souviens très bien de l'arrivée de cette iMac. Et nous, les premiers emails, quoi. Moi, j'ai commencé avec Daft Punk, on envoyait des fax. Donc
ah
là,
oui.
D'un coup, je passe pour une vieille dame.
Là, oui.
Mais
là,
j'ai commencé avec eux, avec des fax. Et effectivement, l'iMac et les iBook ensuite nous ont accompagnés. Et plus tard, effectivement, début des années 2000, l'arrivée justement du smartphone, en tout cas 2005-2006, qui a changé aussi la façon de filmer, de faire des photos et de documenter nos vies.
Pedro Winter, j'aimerais revenir aussi sur la cérémonie des Jeux Paralympiques.
Oui.
Performer là-bas. Alors, vous avez vécu des trucs incroyables dans votre vie. Hein.
Non, ça, c'était
dingue.
Et
là, j'imagine que c'est quand même encore autre chose.
Ouais, c'était dingue. Tout s'est monté de façon très spontanée. C'est ça aussi qui est assez... quoi, qui fait plaisir dans ce monde où tout semble organisé, prévu. Finalement, une cérémonie comme celle-ci, on pourrait se dire, ah oui, tout était prévu depuis un an. Et non, on s'est parlé durant l'été avec Victor Lehmann et Romain Pisnem, qui est le metteur en scène de ce light show incroyable Stade de France, et c'était génial de réunir comme ça toute la scène électronique française dans sa diversité, c'était super.
Un mot sur DJ Mehdi, avec qui vous avez fondé votre label. Il y a un documentaire à voir en ce moment sur arte.tv. C'était qui, DJ Mehdi, pour ceux qui le...
DJ Mehdi, c'était un homme de l'ombre, c'est-à-dire que c'était un musicien qui était au service de beaucoup d'artistes du rap français. Au milieu des années 90, tout le monde connaît certainement Tonton du Bled. C'est le morceau un peu phare du 113. Et moi, je l'ai rencontré, il a voulu devenir un artiste, c'est-à-dire qu'il a voulu être au devant de la scène. Et il avait une curiosité, un appétit pour toutes les musiques, et donc du rap, il est passé à la musique électronique, il était fan de Neil Young, des Beatles et de Kraftwerk, et ce qui en faisait un génie musical qui est parti évidemment trop tôt en 2011, et Thibaut de Longeville, qui est le réalisateur qui a fait ses 6 épisodes pour Arte, lui rend hommage de la meilleure des façons, et effectivement les retours sont assez géniaux pour les gens qui connaissent le parcours de Mehdi et les gens qui ont envie de découvrir un vrai génie musical.
On le voit d'ailleurs prendre son téléphone pour convaincre Thomas Bangalter de venir en studio pour un featuring avec 113, alors qu'à l'époque Daft Punk refuse Madonna. Quel pouvoir de persuasion il avait, sa crédibilité.
Non, alors c'est marrant parce que c'est moi qui appelle, sur la demande de Mehdi, et moi-même j'étais le premier surpris quand Thomas m'a dit je vais en studio avec le 113, j'amène ma petite talkbox, puisque c'était une demande du groupe et de Mehdi. Thomas, voilà, il était curieux et je pense qu'il avait cette attraction pour DJ Mehdi, il a senti quelque chose en lui et il lui a fait confiance et il lui a raison puisque leurs chemins se sont croisés à plusieurs reprises durant sa carrière deux légendes de la musique française qui collaborent ensemble, ça laisse des bons souvenirs.
Pedro Winter, 98, ce n'est pas que la French Touch, ce n'est pas que la victoire des Bleus en Coupe du Monde 98, c'est aussi une année riche dans les salles de cinéma. Et pour renouer avec cette magie, on accueille celui qui, en 98, allait voir La Mutante 2. Un niveau de cinéphilie qui m'a convaincu de lui confier la mission de nous raconter 98 au cinéma. Bonjour Thomas Croisière.
1998 est un millésime exceptionnel pour les cons. Il y eut François Pignon, le champion du monde de Francis Weber, qui fait des maquettes en allumettes.
Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste. Oui. Et bien lui, c'est pareil, c'est juste.
9 millions d'entrées et 3 Césars, dont celui du meilleur acteur pour Jacques Villeray, con vive du dîner de cons. Il y eut Les Cons, des frères Cohen, qui jouent au bowling dans The Big Lebowski.
Nobody fucks with the Jesus.
Dans lequel Jeff Bridges, alias Le Dude, prouve, à l'instar de Charles Nouveau, que l'on peut être barbu et charismatique. À l'époque, Télérama écrivit « Le film ne laissera pas un grand souvenir cinéphilique ». Je suis donc impatient de découvrir ce qu'ils écriront sur mon spectacle « Voyage en comédie » qui reprend à partir de ce soir au Lucernaire et dans toute la France. Même le prix des places vous fera rire. Il y eut aussi « Les jeunes cons du Titanic » de James Cameron.
Je suis
tellement idiots qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils pouvaient, après leur naufrage, tenir à deux sur ce putain de bout de bois. 2 milliards de dollars au box-office mondial, 11 Oscars et 22 millions d'entrées France. Ils font moins les malins, Artus et Pierre Niney. Mais le plus gros con de 1998 se nomme Helge Klingelfeldt, dont Thomas Vinterberg narre le 60e anniversaire dans Festen, qui en danois veut dire fête. Alors si en 1997, le Danemark nous avait apporté de la joie avec Aqua,
ah ouais.
In a Barbie world, life in plastic, it's fantastic.
En 1998, il nous amène le seum puissance 1000, avec ce huis clos et premier film tourné en vidéo, sélectionné et primé à Cannes, qui illustre cette pensée du philosophe également danois, Søren Kierkegaard. Il n'y a rien sur quoi plane autant de séduction et de malédiction que sur un secret.
Han voldtog os, udnyttet os, seksuelt havde sex med sin kære små.
Et là, je peux vous dire que vous avez de la chance de ne pas avoir choisi danois deuxième langue au collège, car la bombe que vient de lâcher Christian Klingelfeldt, le fils d'Helge, pendant son discours à son père, va faire imploser toute une famille. Une famille qui a pour unique avantage de nous faire réaliser que la nôtre n'est pas si pire que ça.
Putain, maintenant, on va se marrer un peu, d'accord? On va chanter, ok?
J'ai croisé un nègre sur mon chemin. Festen est le premier film labellisé Dogme 95, ce mouvement cinématographique de la fin du XXe siècle, initié par les réalisateurs Thomas Vinterberg et Lars von Trier, en réaction à la paresse, trouvait-il, du cinéma européen, et qui a parmi ses commandements de tourner en décor naturel, en son direct, et avec des caméras portées, afin de faire sortir la vérité des personnages. Autant vous dire qu'Il faut sauver le soldat Ryan ou Taxi, eux aussi, de 98, ne font pas partie du dogme.
Papa, merci pour toutes ces belles années et bon anniversaire.
À l'heure où la libération de la parole est sur toutes les lèvres, revoir ce drame inspiré d'une histoire vraie nous immerge dans l'abject. Un film que même son réalisateur trouvait déprimant, mais qui est pour lui, comme pour moi, je le cite, une grande satisfaction. Parce que parler de l'éléphant dans la pièce, celui que tout le monde voit mais dont personne ne parle, c'est encore aujourd'hui une bonne raison de faire du cinéma. Visionnons danois et...
Vive le cinéma !
De 1998.
Merci beaucoup Thomas Croisière pour cette virée en 98 dans les salles. Vous, Pedro Winter, en 98, vous aviez le temps d'aller
alors,
au cinéma?
Non, mais j'ai, alors Festen, big up, parce que moi, c'est un film que j'ai dévoré, adoré, et tout le délire des dogmes de Lars von Trier, j'ai trouvé ça assez fascinant. Il y a Marie à tout prix, sur un autre registre, les frères Farrelly.
Il a jeté un voile pudique sur Marie à tout prix, tiens.
Las Vegas Parano.
Je ne voulais pas prononcer le mot sperme. Ça me gêne toujours sur France Inter.
Non, super. Oui, bien sûr. Je me souviens, Thomas de Daft Punk est grand cinéphile. On se barrait du bureau. Il me dit, oh, viens, on... Donc j'avais de la chance, on allait voir des films ensemble la journée.
Une vie normale avec les Daft Punk finalement.
Voilà.
1998, c'était donc le décollage mondial de la French Touch. Et non, on leur a noté de la Swiss Touch, qui s'est beaucoup, beaucoup moins exportée sur les ondes. Bonjour Charles Nouveau.
Bonjour. Ouais, mais la French Touch, ça dépasse évidemment les frontières, Mathieu Noël. Ouais, et puis en l'occurrence, moi je suis suisse et français. Hein, je suis métisse. Je célèbre volontiers les victoires des deux côtés, là où il y en a à prendre. Donc je vais parler de French Touch, qui dans l'histoire du rayonnement français vaut au moins un des trois buts contre le Brésil.
En attendant la chronique du métisse de l'humour Charles Nouveau, on écoute justement un petit morceau un peu culte de 98, Sexy Boy, R sur Inter.
We'll be right back.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Quand on lui a dit que l'émission d'aujourd'hui était consacrée à 1998, Charles Nouveau ne s'attendait de toute évidence pas à devoir parler de musique. C'est à vous, Charles.
J'ai écrit 17 minutes de blagues sur Aimé Jacquet, Mathieu, avant de me rendre compte que je faisais fausse route. Le thème French Touch m'a un peu pris à contre-pied. Muscle ton jeu, Quentin ! On peut passer à autre chose. Après, évidemment, je respecte énormément le parcours de notre invité, Pedro Winter, vous voyez, bien sûr. Et je ne suis pas le seul. Hein. Thomas Croisière me confiait tout à l'heure, j'ai plein de questions à lui poser sur Ophélie. Thomas Croisière, pour qui la French Touch, c'est avant tout une proposition qu'il faisait à ses camarades de classe pendant son Erasmus en 94. D'ailleurs, French Touch, c'est de l'anglais, mais ça ne se prononce pas French Touch. On dit French Touch. Hein. On respecte l'AOP. Le seul qui a le droit de dire French Touch, c'est David Guetta, parce qu'on sait qu'il ne peut pas s'en empêcher, le pauvre. French Touch, dont vous êtes un peu, dont vous êtes un personnage important, Pedro Winter, évidemment, alias Busy P, un mec qui a entre autres accompagné certains des plus grands talents français jusqu'à un sommet depuis lequel plus personne a pu se foutre de notre gueule, exactement comme Aimé Jacquet. Un patriote dont la maison de production Ed Bagger a pour devise travail, famille, parti. Pedro Winter, c'est le maréchal funky de la production électro-francophone. Révéré jusqu'aux Amériques, c'est l'un des seuls mecs en France qui doit avoir les réponses à des questions comme pourquoi dans tous ses clips, Timbaland a l'air de se frotter les mains avec du gel hydroalcoolique, ou encore de quel groupe sanguin sont les vierges dont Pharrell Williams boit le sang pour paraître aussi jeune à 51 ans. Une question régulièrement googlée sans réel succès par Cyril Lacarrière. Pedro Winter, de votre côté, je ne sais pas si vos anciens camarades de classe envient plus votre succès, votre liberté ou votre implantation capillaire. J'ai un pote très très porté musique électro, donc il vous adore, mais il est aussi chauve, donc il vous déteste. Il est scénariste, alors quand je traverse le 18e arrondissement derrière lui avec nos petits casques de City Scoot, on nous surnomme les Draft Punk. Wow. Pas tout à fait, pas tout à fait la même contribution au rayonnement de la culture française que le célèbre duo dont vous avez longtemps été manager, Chevalier des Arts et des Lettres en 2010. Vous vous passez officier des Arts et des Lettres, je crois, cette année. De notre côté, on se laisse encore 2-3 trimestres. Daft Punk, presque aussi attendu cet été par les Français que la nomination d'un Premier ministre, est pourtant absent des cérémonies d'ouverture et clôture des JO. Par contre, on a eu Phoenix, R. Kavinsky avec Angèle au chant. L'occasion de se rappeler que les meilleurs moments des cérémonies de ces Jeux Olympiques français, c'était quand même ceux chantés par une Québécoise et une Belge. On est trop fort. À la cérémonie de clôture des Paralympiques, on a eu la présence de nombreux autres ambassadeurs du toucher français. Autour de vous, entre autres, Cassius, Bob Sinclair, Étienne de Crécy, Martin Solveig, 160 kilos à E5. Tous les quinquas les plus couche-tard de l'Hexagone étaient réunis. De toute façon, je ne peux pas lister dignement toutes les légendes que vous côtoyez, Pedro Winter. Ou alors, il faudrait que Zoom Zoom Zen passe à 3 heures d'émission. Non. Regardez les gueules autour de vous. Personne ici n'a l'endurance. Mais ça ne m'étonne pas qu'Arte ait consacré 6 épisodes à DJ Mehdi. J'aimerais quand même saluer votre collaboration récurrente avec la Suisse, où je serai lynché à mon retour, quand ils vous auront vu ce que je porte aujourd'hui. Je pense à Couleur 3, mais aussi au très très cool Varnish la piscine.
Bravo.
Et je peux que vous recommander de vous intéresser de plus près à la carrière musicale de l'helvète Mathieu Noël, ici présent. Pédiluve mat dans le milieu du slam genevois fétichiste. Prenez au moins ça, parce qu'au final, je vous ai absolument pas fait justice, Pedro Winter, ni à vous, ni à Aimé Jacquet. Pardonnez-moi, je ne suis qu'humain, après tout.
Oh, c'est magnifique, wow, magnifique, magnifique. Merci bien. Beaucoup, Charles Nouveau. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zone. Restez chez nous en France, parce que là, vous pouvez plus retourner en Suisse. Il faut choisir une des deux nationalités maintenant.
C'est un d'époque, non?
Ah bah oui,
c'est un d'époque,
c'est 98.
Ouais,
il n'a pas été lavé.
Ouais, visiblement. Ah, c'est ça.
Ça porte malheur, ça porte malheur.
Merci beaucoup, Pedro Winter, d'avoir feuilleté avec nous l'album Souvenir de 98. Je rappelle le documentaire sur votre ami DJ Mehdi à découvrir sur arte.tv, DJ Mehdi Made in France. Un dernier mot des Daft Punk, c'est vrai qu'on ne les a pas vus, on les attendait dans une des cérémonies.
Mais ils ont splitté, en fait. Qu'est-ce que les gens n'ont pas compris?
Mais vous essayez pas de leur passer des petits coups de fil, leur dire, allez, quand même, une fois, on peut faire un truc?
Non, justement, c'est les plus intègres et justement,
rien ne les fera changer d'avis.
Non.
Ils sont fâchés.
Absolument pas. Ils font chacun de la musique de leur côté. Ils font plein de choses. Regardez, Thomas fait de la musique pour l'opéra, des ballets, des choses. Et on attend vivement le nouveau disque de Guy Manuel.
Ouais. Ah, qui est dans les tuyaux?
Ah, j'en sais rien, mais j'espère. Quoi, je sais qu'il est en studio, donc j'espère.
Ils veulent des gossips un peu.
Je rappelle donc le documentaire sur arte.tv DJ Mehdi Made in France. Eux aussi sont Made in France, ce qui n'est pas toujours un gage de qualité. Merci Manon, Marie, Quentin et Cyril.
Merci
à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission, notamment Quentin.
L'équipe de Lina, Émilie Lacot et Anne Delaveau qu'on embrasse.
Bien sûr, ainsi que Florence Gimalac, Alexia Lacour, Laura Dumez, Pierre Courat, Gérald Arnaud, et puis aussi Romain Bonifacier, Valentin Gelsomino. À la réalisation, c'était Ghislain Fontana, à la technique Adèle Caglar et Cédric Diallo.
Ghislain.
Ah, visiblement, il y a une petite complicité entre Pedro et Ghislain, visiblement.
Capillairement, il se passe quelque chose.
Il était là en 98.
Il était là, je le disais aussi. Zoom Zoom Zen revient lundi, les amis, avec celui qui n'a pas encore remporté le prix Goncourt, mais qui a déjà remporté le prestigieux prix Mathieu Noël du roman préféré du présentateur de Zoom Zoom Zen. Je lui remettrai en main propre, c'est une très jolie petite statuette de moi. L'immense Abel Quentin sera notre invité, alors à lundi et d'ici là, excellent week-end à l'écoute d'Inter.
Zoom Zoom Zen.